C'était prévisible.
Les Français champions du monde, s'ils ne réussissent pas, voilà, à repartir.
Voilà, c'est là où on peut jouer.
Et il y va, et il y va, et ça touche, et il s'accroche, et il
If they lose, it's hammer time.
Accélère!
Bonjour à toutes et bonjour à tous. Bienvenue chez Barbecue F1 sur Radio Merguez & Co. C'est le 22e épisode de cette saison 2021. Et nous sommes cette fois-ci en Arabie Saoudite pour le 21e Grand Prix de la saison. L'équipe Barbecue F1 est bien sûr dans le désert depuis bien trop longtemps. Et autour de moi, dans l'Oasis, je retrouve... Lance Gnoll, comment ça va, Lance?
Ça va, je commence à avoir la bouche un peu sèche et le soleil a tapé. J'ai oublié ma casquette, donc j'ai le dessus du crâne tout rouge.
Ouais, c'est ça, pas d'écran total.
Rouge comme les nombreux drapeaux qu'il y a eu pendant le...
ouais, sachant qu'en plus, on va rester encore plus longtemps dans le désert, puisque après ces Grands Prix d'Arabie Saoudite, il y a le Grand Prix d'Abu Dhabi. Donc on va rester, mais avec nous aussi Charles Carrefour.
Salut à tous. J'ai fait du quad dans le désert cet après-midi. Et effectivement, je rejoins Lance, il s'attape un peu en Arabie Saoudite et même en Abu Dhabi.
Ok. Et puis Gerhard Berger avec nous. Ça va aussi, Gerhard? Pas trop chaud?
Non, ça va pas trop. Je me suis pris une insolation. J'ai raté tout le Grand Prix. Je suis resté dans ma chambre d'hôtel à devoir mater entre deux siestes de récupération les Grands Prix.
Ok.
Mais sinon, ça va très bien.
Ok, très bien. Bon, on a beaucoup de choses à dire, évidemment, sur ce Grand Prix qui était assez exceptionnel ce week-end. Enfin, on va voir ce qu'on en pensait, les grands merguezers autour de moi. On peut-être commencer par parler de la disparition de Frank Williams, qui est décédé ces derniers jours, qui était un grand bonhomme de la F1. Et puis, juste pour récapituler un peu, c'est ce qu'il a fait dans sa carrière en Formule 1. Et ben, Frank Williams, c'est 9 titres constructeurs, 7 titres pilotes, 114 victoires, 128 pole positions. Je ne sais pas si un de vous autour du micro ou des micros a quelque chose à raconter sur lui ou pas, mais c'était quand même une grande figure assez marquante avec une biographie intéressante. Est-ce que l'un de vous a quelque chose à dire sur Frank Williams ou pas?
Ouais, vas-y, Charles.
Si les gens ne savent pas vraiment qui c'est et s'ils veulent en savoir plus, Netflix a fait un documentaire sur lui et ça permet de comprendre le personnage, son écurie et comment il est arrivé à ce qu'il est devenu, quoi, tout simplement. Donc c'est super cool.
Ok.
Il représentait un petit peu l'essence un peu du début de la Formule 1 pour moi, où c'était un peu des garages privés et des gens passionnés de voitures qui finalement mettaient leur voiture sur la grille à chaque départ. Et je trouve qu'il y a un peu ça qui restait dans l'équipe Williams, où c'est son écurie à lui, c'est pas une ancienne de voiture qu'on connaît de par juste les voitures de Grand Tourisme ou juste véhicules de la vie de tous les jours. Ça, je trouve que ça restait un petit peu cette fibre de la Formule 1 à ses débuts. Enfin, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais moi, c'est vraiment comme ça que j'entends Williams. Et malheureusement, les dernières années, ça ne leur a pas vraiment fait honneur en termes de performance et à quel point cette écurie est quand même une des écuries mythiques de la Formule 1.
Moi, je suis né en 80, donc autant dire que j'ai toujours entendu le nom de Williams quand je regardais de la Formule 1. C'est-à-dire qu'il faisait partie du paysage. Le mec qui est parti de rien, qui a hypothéqué sa maison, tout ce qu'il avait pour pouvoir assurer son équipe et qui a réussi à atteindre le Graal. Alors aujourd'hui, je pense que c'est probablement impossible, sauf si tu es un milliardaire et que tu veux faire mumuse avec des voitures qui vont très vite, comme on peut en avoir. Mais vraiment, un self-made man comme ça, c'est... je pense qu'on n'en reverra pas en Formule 1.
Ouais, et puis c'est vrai, comme l'a dit Gerhard, que sur les dernières années, c'était un peu compliqué, mais c'était retiré de la gestion opérationnelle de l'écurie. Et c'est vrai qu'on a vu tout de suite que c'était plus difficile. Alors après, je pense qu'il y avait aussi quand même un lien avec l'économie de la F1 qui est devenue de plus en plus difficile ou qui réclamait de plus en plus de moyens, ce qui ne pouvait pas être le cas chez Williams, et qui l'écurie a fini par se faire racheter tout en conservant son nom. Ok, bah super. On va dire ciao à Frank Williams, qui était une légende de la Formule 1. Et puis on va parler tout de suite de ce Grand Prix. Pour faire un peu le point d'étape avant justement ce grand week-end, sur le Grand Prix précédent au Qatar, on avait vu Lewis Hamilton encore se rapprocher de Verstappen au classement pilote. On se disait que c'est bon, ça s'était inversé depuis Sao Paulo, où on sentait que Verstappen n'était pas loin de remporter ce titre pilote et avait fait la différence. Et là, on voyait Hamilton et Mercedes se rapprocher. Et qu'allait-il se passer sur ce Grand Prix ? Est-ce que ça allait être le Grand Prix où Hamilton allait remettre, entre guillemets, les pendules à l'heure, se retrouver presque dans un scénario un peu rêvé d'une production Universal Pictures à égalité de points avant le dernier Grand Prix de la saison ? Est-ce que c'est ça qui s'est passé ce week-end ? Je pense que tout le monde le sait déjà, mais ça m'est passé de belle. On va essayer de faire comme... Il s'est vraiment passé beaucoup de choses, donc c'est difficile d'avoir un peu de respecter la ligne de l'émission standard, mais peut-être votre ressenti après ces qualifications, après les essais libres, après les qualifs, sur ce circuit qui est quand même en fait inauguré, qui s'est terminé... on va dire quelques heures, qui a été homologué un jour avant le début des essais. Et puis ces qualifications qui avaient vu effectivement une pole de Lewis Hamilton avec un Verstappen qui avait en Q3 un duel assez exceptionnel entre Hamilton et Verstappen, et Verstappen qui s'était sorti dans le dernier virage alors qu'il était en train de faire un tour relativement exceptionnel et qui, bam, tape un mur. Je vais poser la question à Charles. Qu'est-ce que t'avais pensé de ces qualifications et du circuit après le samedi? Ouais.
Du circuit relativement, surpris par l'asphalte qui n'était pas aussi glissant qu'on aurait pu le penser, sachant qu'il a été monté il y a quand même quelques semaines. Visiblement, ils l'ont bien lavé, ils ont fait en sorte qu'il ait quand même un peu de grippe. Et au final, Pirelli a plutôt choisi la bonne fenêtre de pneus parce que les pilotes ne se plaignaient pas du manque de grippe ou d'une dégradation trop forte. Donc c'était plutôt cool là-dessus. On a pu voir du coup des pilotes attaquer quand même plus longtemps que d'habitude, on va dire. Et concernant la qualif, encore une fois surpris par Red Bull, et surtout par Verstappen, je dirais, dans le sens où il arrive à mettre des secteurs en violet où tout le monde attendait Hamilton et d'être vraiment écraser la Red Bull de Verstappen. Et au final, Hamilton s'en sort quand même plutôt bien parce qu'il aurait pu prendre, je pense, une claque si Verstappen avait été au bout de son dernier run de Q3. Quand on voit l'avance qu'il avait sur les deux premiers secteurs, ça aurait pu faire vraiment mal à la... Je sais pas si à l'ego de Lewis, mais en tout cas, ça aurait pu faire peur pour le dimanche, quoi.
Bon, après,
il s'en sort bien.
Ça rejoint toujours un peu ce qu'on dit.
Donc, plutôt satisfait. La surprise est bonne, quoi, tout simplement.
Ouais, alors après, ça rejoint souvent ce qu'on dit aussi, c'est que la prise de risque, c'est prise de risque, c'est que justement, on peut faire à la fois une grande performance et en même temps, on est sur le fil du rasoir. Et c'est exactement ce qui s'est passé avec Max qui a lâché dans le dernier virage, ce qui, au final, peut-être une différence d'expérience entre ce que fait Max Verstappen et ce que fait Lewis Hamilton sur cette qualification, cette pole position. C'est que voilà, Lewis a été capable peut-être d'en prendre un peu moins de risques et de tenir son tour totalement, alors que Max, il a un peu craqué dans le tout dernier virage. C'est ça qui est incroyable. C'est un opéra, cette histoire entre les deux. Lance, est-ce que c'est ton sentiment aussi ? Est-ce que t'as aussi d'autres choses à dire à la fois sur le circuit et puis sur ce duel qui, dès les qualifs, était vraiment à couteau tiré ?
C'est vrai que on découvrait, c'était un peu aussi l'excitation du week-end, c'est qu'on découvrait ce circuit qui était quand même l'un des, qui est le, C'est le deuxième plus rapide en vitesse moyenne. Je crois qu'on est sur du 249 km/h sur le tour, avec le deuxième circuit le plus long, donc derrière Spa. Donc, tu avais vraiment finalement que deux gros virages, deux gros virages. Sinon, ouais. C'était que de l'enchaînement. 27 virages, mais finalement, tu as l'impression que les gars allaient toujours tout droit. Des pneus rouges qui ne s'usaient pas malgré des températures assez importantes, même si au final, vu que c'était le soir, sur les moments qui comptaient, une température de piste, je crois, à 30 degrés, donc pas quelque chose qui pourrait. Donc finalement, des très bonnes conditions, et peut-être ce qui fait la différence sur le Q3 et qui fait que Max doit prendre des risques, c'est la voiture. Je pense qu'on en parlera. Une voiture à qui il manque, je ne vais pas dire la moitié de l'aileron avant, qui est capable de taper le meilleur tour en course, ça laisse dubitatif sur vraiment le niveau de la voiture. En plus, ils avaient remis le moteur de du Brésil, moteur de fusée.
Donc au final, Ariane 5.
Ah bah, je pense que là, il faut faire les courses de dragster, les tout droits aux États-Unis. Mm-hmm. C'est des moteurs d'hélicoptère, les trucs. C'est même des turbines, d'ailleurs, c'est même plus des moteurs. Mm-hmm. Donc Max obligé de prendre des risques s'il voulait faire quelque chose. Après. Ça n'a pas payé. Et on va dire que c'est le début des prises de risques du week-end.
Oui. Alors, bien sûr, après... On sait que là, on est dans ça fait quelques temps qu'on est un peu dans le money time, mais là, c'est vraiment l'ultra money time. C'est que la pole position sur un circuit sur lequel on sait que les dépassements vont s'annoncer difficiles, il joue la maison Verstappen. Et puis, lui, il avait un peu une marge d'erreur possible par rapport à Hamilton, pour lequel la moindre erreur et le moindre accident, justement, c'est ce qu'on verra aussi le dimanche, c'était impossible pour Hamilton, alors que pour Verstappen, il pouvait prendre encore plus de risques qu'un Hamilton. Je pense qu'on verra comment Verstappen se comportera sur le dernier Grand Prix de la saison. Mais vas-y, Gerhard, quel est ton sentiment, toi, sur ces qualifications? Je vais peut-être rappeler quand même les positions sur la grille après ces qualifications du samedi. On a eu une pole position, la 103e pole position d'Hamilton en carrière. Sur ce Grand Prix, deuxième place pour Bottas, troisième pour Verstappen, quatrième Leclerc, cinquième Pérez, sixième Gasly, septième Norris, huitième Tsunoda, Ocon en neuvième position, Giovinazzi dixième. A signaler quand même que Leclerc en Ferrari avait vraiment eu un gros accident en essai libre. Et puis à signaler aussi qu'on était quand même, c'est mon sentiment, mais tu peux me contredire, Gerhard, on a senti Pérez qui était un peu en difficulté, un peu, notamment en particulier dans les essais libres, on le voyait vraiment loin. Je trouve que sa cinquième place en qualif est au final plutôt rassurante, alors qu'on le voyait franchement loin. Vas-y, Gerhard.
Ouais, je suis d'accord. C'est pas la première fois, hein. Pérez qui en qualif a un peu du mal. Je pense que c'est un peu le leitmotiv de la saison, de sa saison chez Red Bull. Mais je suis d'accord avec toi que sa cinquième place, même si je pense que il devrait être devant la Ferrari de Charles Leclerc, sa cinquième place, c'est presque une déception quand on regarde le niveau de la Red Bull par rapport à la Ferrari, en particulier sur un circuit comme ça où c'est essentiellement de la vitesse qu'on a besoin. Et même si le moteur Ferrari avait fait beaucoup de progrès, je pense qu'il est quand même un petit peu en retrait par rapport au moteur Honda et Mercedes. Juste pour revenir sur le circuit, je pense que il y avait beaucoup de, on parlait beaucoup du circuit comme potentiellement trop dangereux, pour finalement un peu inutilement trop dangereux. Je crois que c'était même un des mots de Pérez qui disait ce circuit est trop dangereux, un peu inutilement. Je crois que comment s'appelle Vettel aussi était pas forcément trop fan. Finalement, ouais, je dirais pas que c'est un circuit extraordinaire qui offre beaucoup de possibilités de dépassement, mais c'est au moins un circuit sur lequel les pilotes avaient l'air de plutôt s'amuser, ce qui est quand même pas mal, même si c'est pas forcément, ça se retranscrit pas forcément sur le combat à la télévision ou le combat en piste, mais c'est des circuits sur lesquels les pilotes s'amusaient, et comme l'a dit comme l'a dit Charles et Lance aussi, finalement, on avait beaucoup d'appréhension sur l'état de la piste, étant donné qu'elle est toute neuve et qu'on avait peur de reproduire un Turquie l'année dernière où c'était un peu le patinage artistique sur quatre pneus. Là, c'est pas forcément été le cas et même au contraire, la piste était plutôt en très bon état pour moins se préoccuper de la dégradation des pneus ou en général des pneus, mais plus finalement le combat en piste. Donc c'était plutôt un bon point qui était à signaler. Pour en venir à la qualification, quelques petites déceptions quand même pour Carlos Sainz qui malheureusement sort en Q2, il me semble, sort de la piste en Q2 et frôle. J'ai l'impression qu'il frôle. Je suis même pas sûr qu'il est vraiment touché. Enfin, visiblement, il est un peu touché, mais j'arrivais pas à le voir sur les ralentis. Et vraiment, s'il touche, c'est vraiment pas beaucoup. Mine de rien, ça lui fait perdre son aéro sur l'aileron arrière, qui en fait ne permet pas de faire un tour. C'est bon pour passer en Q3. Et c'est dommage parce que je pense qu'il avait presque un meilleur rythme que Leclerc, en particulier sur tout le week-end où Leclerc a plutôt été en recherche de confiance avec sa voiture après son énorme crash du deuxième essai libre, alors que Sainz était plus peu à peu en train de capitaliser sur tous les bons runs qu'il a pu faire jusqu'à présent. Donc c'était un peu dommage de ce point de vue-là. Mais sinon, après, en termes de grille, je pense que c'est plus ou moins une grille attendue, mise à tête pour les Aston Martin qui font une qualification catastrophique avec Vettel et Stroll sortis en Q1. Je sais pas si c'est déjà arrivé cette année, mais c'est vrai que ils sont juste devant les As de Schumacher et Mazepin, donc c'est pas forcément
non, c'est pas très bon ça.
Ouais, c'est pas forcément éloquent pour la team du papa Stroll. Mais bon, je ne sais pas si c'est juste un one-off ou si c'est quelque chose de plus fondamental. De toute manière, je ne pense pas qu'ils cherchent ils cherchent pas à gagner des places au championnat. Je pense qu'ils sont un peu dans le ventre mou du bas de tableau où ils ne peuvent pas vraiment se faire attraper. Ils ne peuvent pas non plus rattraper les gens. Donc, peut-être qu'il y a aussi un peu de lassitude de ce point de vue-là.
Oui, bon, alors on fera possiblement en projet une attribution des merguez d'or sur cette saison 2021. On pourra, je pense, beaucoup parler d'Aston Martin quand même. Parce que, alors qu'au début de cette saison, on les voyait assez compétitifs à la lutte avec peut-être probablement Alpine et Alpha Tauri. C'est plus difficile sur cette fin de saison. Ils sont complètement largués. Et on voit les performances, où on voit que les Williams dominent en termes de performance et les Aston Martin. On peut aussi estimer qu'avec les modifications de réglementation technique qui vont intervenir pour cette prochaine saison 2022, ils ont complètement lâché. Et que c'est ça qui explique un peu ces performances très difficiles. Bon, on a chacun échangé autour de ses qualifications. Peut-être on va donc passer à la course. Hein. On rappelle, Verstappen avait déjà tout tenté en qualification pour obtenir cette pole. Il avait craqué dans le dernier virage. Qu'est-ce qui s'est passé le dimanche? Eh bien, le dimanche, il s'est passé beaucoup de choses, à la fois sur piste, hors piste. Que ça soit à la fois pour nos deux acteurs principaux que sont Max Verstappen et Lewis Hamilton, à la fois pour la direction de course Michael Masi, à la fois pour aussi un Bottas, un Ocon. Il y a eu pas mal de choses, des voitures de sécurité, des voitures virtuelles de sécurité, des drapeaux rouges. Il y a eu à boire et à manger. Alors peut-être
le tableau entier a été allumé, toutes les lumières.
Donc c'était vraiment, c'était une saison entière de Drive to Survive en un Grand Prix, vraiment incroyable. Alors on peut peut-être résumer. Je vais essayer de faire un petit résumé condensé de ce qui s'est passé pendant cette course. C'est vraiment pas évident. J'ai pris des notes, j'ai dû préparer l'émission, puis je me suis dit comment on fait. Alors qu'est-ce qui se passe? Alors déjà, je vais commencer par le début. Mon départ à peu près normal. Hein. Les choses se passent à peu près normalement au départ. Et puis, tour numéro 9, on a un accident de Schumacher le fils Schumacher, qui se cartonne exactement de la même façon que Leclerc, et là, drapeau jaune, etc. Et évidemment, les Mercedes se disent, tiens, on va saisir l'opportunité d'aller changer les pneus, de mettre les pneus durs, et puis comme ça, on va aller jusqu'au bout sans plus jamais s'arrêter. Et puis, pas de bol, un tour plus tard, drapeau rouge, donc au final, Verstappen, qui était repassé devant au gré de l'arrêt des Mercedes, et ben finit par avoir justement un changement de pneus gratuit grâce au drapeau rouge qui a fait rentrer toutes les voitures dans les stands. Et donc là, ben là on se dit, ça y est, quoi, la stratégie Mercedes, encore une fois, un peu défaillante. Et puis, au final, un deuxième départ sur piste. Et puis, deuxième départ sur piste. Alors, on a un petit raté de Verstappen, Hamilton qui le double, mais Max Verstappen qui coupe la piste et qui reprend sa position. Lewis Hamilton freine et il se fait doubler par Ocon. Alors, Ocon, qui avait déjà pas mal remonté sur la grille après le premier départ, finit par se retrouver justement en deuxième position. Et puis, à peu près derrière, au final, il y a un accident. Il y a Pérez qui a oublié Leclerc sur sa gauche, qui finit par se cartonner. Ça crée un ralentissement. Donc là, on est effectivement sur ce circuit de Jeddah où on a les murs. Il n'y a pas de dégagement. Donc au final, accident de Pérez. Ça entraîne des freinages un peu intempestifs, pour éviter le suraccident. Et puis, ça ne manque pas. On a Russell qui se fait démonter l'arrière de la caisse par Mazepin. Et donc là, de nouveau, un drapeau rouge. Et on entrera dans le détail des différentes pénalités et des différentes instructions de la direction de course. Mais donc, au tour 17, on a eu encore une fois un troisième départ avec cette fois-ci sur la grille. On avait un Ocon qui était en pole position, chose incroyable, suivi d'un Hamilton, troisième Verstappen. Et donc, troisième départ, tour 17, Verstappen prend tous les risques, il prend l'intérieur de Lewis Hamilton et d'Ocon. Il y a presque une collision entre Hamilton et Ocon. Et puis, en fait, l'aileron d'Hamilton est abîmé. Ce ne sera pas l'unique fois de ce week-end. Et Max Verstappen prend la tête du Grand Prix. Et donc, au final, s'ensuit la course continue. On a ce duel qui s'amorce encore une fois entre Hamilton et Verstappen. On a Hamilton qui double Verstappen, puis Verstappen qui lui repasse devant en plus ou moins ressortant de la piste. De façon délibérée ou subie, on en discutera. Lance Niol nous donnera son sentiment en particulier. Et puis, chose incroyable, je crois que c'est vers le tour numéro 37, si je ne m'abuse. On a justement, avec au gré de ces différents dépassements licites ou illicites, on a Verstappen qui décide de laisser sa position à Hamilton, donc la tête du Grand Prix. Et il fait ça dans une zone de ligne droite, juste avant une zone DRS. Et Hamilton s'entend le coup de Verstappen qui veut le laisser passer pour justement pouvoir utiliser son DRS juste derrière et reprendre la position. Et ben, se cale derrière Verstappen et Verstappen freine et Hamilton le percute et endommage encore une fois de plus son aileron. Donc la course continue comme ça. Et puis au final, Hamilton finit par prendre l'ascendant sur Verstappen et malgré un aileron avant particulièrement détérioré, arrive à enchaîner les meilleurs tours, chose incroyable. On pouvait se poser la question de quel est effectivement le rôle de ces ingénieurs qu'on voit dans les stands des écuries qui font beaucoup de calculs et beaucoup de calculs, mais avec un aileron cassé comme celui de Lewis, on arrive à faire les meilleurs tours. Donc est-ce que la voiture est si dominante que ça? Est-ce qu'au final Lewis Hamilton il en a sous la pédale tout le week-end? Bah, c'est notre sujet de discussion, mais moi je pense que avant toute cette discussion sur les ingénieurs Mercedes, on va quand même pas mal parler de la direction de course et de la réglementation. Au final de tout ça, c'est Hamilton qui l'a emporté avec un Verstappen en deuxième position et un Bottas troisième qui coiffe sur le poteau. Esteban Ocon qui avait fait une particulièrement bonne prestation, qui avait réussi à avancer à chaque départ, à gagner des positions et à éviter tous les accidents, y compris à se sortir entre guillemets vivant de ce duel au couteau entre Hamilton et Verstappen. Vas-y Lance, donne-nous ton sentiment peut-être général sur cette course. On a vu vraiment un duel qui débordait du vase entre Hamilton et Verstappen. Est-ce que tu as trouvé ça beau? Est-ce que tu as trouvé ça frustrant? Est-ce que tu as trouvé ça injuste? Vas-y.
Déjà, c'est finalement sur le début du Grand Prix, surtout avec le peloton. assez compact sur, sur les départs de course. Rien, aucune voiture qui finit dans les balustrades, etc. Tu disais, finalement, tout part bien. Devant, ça crée les écarts. Est-ce qu'on est parti pour justement un petit train-train de 50 tours avec des mecs qui volent à 250 km/h de moyenne? Est-ce qu'on va se faire chichi? Et ben non, arrive après les multiples carambolages. Après, on pouvait s'attendre à un moment ou à un autre qu'un mec rate un virage et finisse quand même dans les balustrades à force d'attaquer. Donc c'est quand même ce qui est arrivé. Et là, c'est vrai que c'est l'opéra grandiloquent qui commence. Là, c'est du plaisir à l'état pur, avec des rebondissements dans tous les sens. Un Grand Prix qui a duré 2 heures, mais moi, je ne l'ai pas vu passer. Bon, Gerhard, il n'a pas vu passer parce qu'il s'est endormi, mais ça, c'est autre chose.
pas de spoil sur les autres merguezards. Il voulait peut-être pas le divulguer, cette information.
Non, mais il peut avoir des très très bonnes raisons de s'endormir. On peut être tous fatigués. Est-ce qu'on a, on peut avoir des petits bébés qui arrivent, par exemple. En revenant sur la course, c'est vraiment parti en sucette avec la direction de course qui s'est crue au souk de Marrakech à dealer. Tu récupères une petite place derrière et je te fais pas de pénalité. À un moment ou un autre, je te coupe la trajectoire, donc je te laisse la place, mais en laissant la place, j'ai pas compris si c'était vraiment Verstappen qui mettait un coup de frein. A priori non, ou c'est vraiment Lewis qui déboîte mal, qui reste dans les échappements le plus longtemps possible.
Alors, on va peut-être pas rappeler pas trop, quelles sont tes acquaintances, comme on dit, par rapport à nos deux acolytes, Lewis Hamilton et Max Verstappen. Moi, de ce que j'ai compris, c'est que la Fédération internationale automobile avait pris une sanction de 10 secondes à l'encontre de Max Verstappen pour ce coup de frein juste devant Hamilton, qui aboutit aux dégâts sur l'aileron avant de Lewis Hamilton, mais qui finalement cet accident n'a pas entraîné un abandon de Lewis Hamilton qui aurait pu être catastrophique qui aurait donné le titre à Verstappen, mais n'a pas non plus ces 10 secondes de pénalité, n'entraîne pas un déclassement quelconque de Max Verstappen. Et après, moi, ce que j'aurais voulu entendre, c'est peut-être ton sentiment par rapport à comment Max Verstappen s'est comporté en course, parce qu'on a quand même eu un, même si on peut débattre des différentes manœuvres qu'il a pu avoir, est-ce que tu as trouvé que ces manœuvres, elles étaient légitimes ou on va dire réglementaires entre guillemets? Parce qu'il s'est quand même fait pénaliser, si mon compteur de pénalité de la FIA est bon, il s'est quand même fait pénaliser au moins, je pense, il s'est fait pénaliser trois fois. Est-ce que c'est légitime selon toi? Est-ce qu'on était un peu contradiction avec le Let Them Race? Est-ce qu'il a un peu craqué finalement? Parce que même ses audios, ses radios qu'on entendait de sa part montraient quand même que c'était assez compliqué. C'est quoi ton sentiment?
Pour moi, elles sont méritées. Hein. Je suis quand même pas un fanboy comme Jacques Villeneuve. Hein, quand même. sur la pénalité, j'avais pas en tête les 10 secondes qui étaient tombées. C'est même ça qui l'empêche aussi. Et finalement, ils ont quand même bien fait de pas s'arrêter à la fin pour essayer d'aller grignoter le meilleur tour en course. Parce que c'est se poser un peu cette question-là. Et finalement, Ocon était tellement proche, la fenêtre n'était pas assez grande pour qu'il puisse s'arrêter et aller gratter le meilleur tour en course pour ce petit point qui l'aurait maintenu un point devant. Et au final, dans un sens, heureusement, parce qu'avec les 10 secondes, il ne perdait pas la deuxième place, mais il y avait même Bottas et Ocon qui lui passaient devant. Donc finalement, c'est un mal pour un bien. Non, il y a eu des manœuvres, j'ai envie de dire, sur la continuité de ce qu'il a montré sur les Grands Prix précédents. On va dire, si on met plutôt Tim Holland que c'est plein de coronets. Et si t'es plutôt Tim Lewis, tu dis que ce mec est un malade. Parce que je pense que Lewis a dû répéter pas mal de fois. Mais par contre, il y a quand même une manœuvre qui est quand même magistrale. C'est sur
le départ.
La relance au deuxième drapeau rouge.
Exceptionnel.
Elle est magnifique. Là, pour le coup, les dépassements comme ça, on n'en a quand même pas vu beaucoup ces dernières années. Et après, c'est bon, la McLaren est plus forte et finir par passer. Et même à un moment, quand
sacré la plus.
Mercedes. Moi, j'étais resté au McLaren Mercedes. Même à la fin, quand il y a une autre pénalité où il doit le laisser Lewis repasser devant lui, il le laisse repasser devant, mais le virage d'après, il le redouble. Bon, après, il l'a relaissé passer parce qu'apparemment, il sentait que ça pouvait être mauvais pour lui. Donc, c'est un peu sur la continuité de ce qu'on a dit pour les qualifs. Il sent que sa voiture est largement moins bonne. Et donc, il essaye de compenser. Et généralement, quand tu essaies de compenser, ça peut entraîner des soucis. Alors, ça passe ou ça casse. À voir sur le dernier Grand Prix, s'il est capable de monter le paroxysme encore plus haut sur ce style de choses. Parce qu'on ne pas oublier, alors je pense pas qu'il le fera, parce que ça serait laisser vraiment une très mauvaise trace dans l'histoire, que si jamais aucun des deux ne finisse la course, c'est lui qui est champion du monde.
Oui.
Vu qu'il a plus de victoires cette année, a priori c'est lui qui serait champion. Je ne pense pas qu'il oserait. Parce que ça serait vraiment gagné.
On l'a déjà vu. Hein.
Ouais, mais.
Schumacher. Mais souvent Schumacher, quand même.
Mais bon, c'est là aussi.
C'est vrai, c'est
mais là. Mais au final, c'est. Ouais, Prost et Senna, qui s'était aussi accroché sur ce genre de choses.
Et chacun son tour. Je crois que c'est une année l'un, l'autre année l'autre.
Ouais, tout à fait.
Donc au final, je sais pas si. Pour moi, ça serait. Peut-être à l'époque, ça avait fait du bruit, mais ça restait dans le monde de la F1. Aujourd'hui, avec l'ultra-communication dans tous les sens, je pense que ce n'est pas quelque chose avec lequel tu sors grandi, quoi. C'est-à-dire, limite, l'année prochaine, sur chaque circuit, les gens ils pourraient le siffler, et à juste raison.
Ok, très bien. Je vais demander à Charles Carrefour son avis sur ce duel qui a bien animé la course. Au gré des différents drapeaux jaunes, drapeaux rouges,
d'ailleurs, on n'a pas vu les autres. Hein, donc, comme à chaque fois, sauf à la fin, le duel Ocon-Bottas. Ouais,
on a vu la ligne droite.
On n'a pas vu la fin, le duel où Bottas dépasse Ocon sur les derniers mètres. Ça, ils nous l'ont privé pour aucune raison valable, je pense. Et vas-y, Charles, quel est ton avis sur ce duel Verstappen-Hamilton, sur peut-être le comportement de Verstappen? Est-ce que les sanctions qu'il a subies sont légitimes? Est-ce que il aurait pu être peut-être un peu moins agressif, ça lui aurait été plus positif ou pas? Ou est-ce qu'il y avait que en étant vraiment agressif comme il a pu l'être dans ses dépassements, dans ses défenses qu'il pouvait s'en sortir?
Après, effectivement, Verstappen a montré cette saison et les saisons précédentes qu'il a toujours été agressif, ou en tout cas sur la corde. Il est arrivé à Jeddah avec de l'avance. C'est pour avoir un petit matelas qui aurait pu potentiellement lui permettre de dire dans tous les cas, même si je ne finis pas la course, Lewis ne sera pas champion, après le Grand Prix. Donc je comprends pas non plus la prise de risque énorme sur le deuxième départ où il se jette à l'intérieur, même le troisième départ où il se jette à l'intérieur, sur le deuxième départ où il court circuit et encore une fois et on va dire il est borderline sur le tour 40 ou 44, je sais plus, enfin aux trois quarts de la course où sa façon de rendre une place est très sournoise, ou en tout cas, Lewis Hamilton, c'est pas un lapin de trois semaines, et il sait très bien que bah, rendre à cet endroit-là, c'est pas le plus opti, et ça lui permettrait de pouvoir le repasser très rapidement et très facilement derrière.
Après, excuse-moi de te couper, c'est peut-être pas un lapin de trois semaines, Lewis Hamilton, mais ça s'est joué à, je pense que ça s'est joué à un millimètre, hein, cette histoire de
dépassement. Totalement.
C'est qu'il y a pas, après, il y avait pas une vraie maîtrise non plus d'Hamilton sur cette séquence-là, puisque son aileron quand même, c'était assez miraculeux que ça tienne.
Ce qui est paradoxal en fait, c'est que au moment où il tape, c'est son ingénieur qui lui indique que Verstappen va rendre la place. Donc c'est un peu, il n'était pas au courant avant. Verstappen l'était forcément vu qu'il a freiné, mais Hamilton du coup était au courant au moment où il a tapé l'aileron. Donc c'est quand même paradoxal. Je pense est-ce qu'il a voulu le break test comme il dit vraiment. Je pense qu'il a quand même compris ce qui se passait. Après, il est pas bête, il savait très bien que s'il passait, il avait le DRS derrière et dans la ligne droite, il pouvait le repasser dans la ligne droite. Je pense que dans les deux cas, les deux essaient de... Enfin, sur cet accrochage, les deux essaient de donner leur version des faits, mais la plus belle, quoi. Certes, les deux, je pense, sont un petit peu fautifs. La situation, le faire à cet endroit-là, pas le meilleur endroit. Mais de là à se rentrer dedans, à ne pas freiner, c'est vrai que c'était pas le plus fin d'Hamilton. Il aura pu clairement soit le doubler et vas-y, je te double à la régulière plus tard, il n'y a pas de souci, vas-y. Mm-hmm. Bon, après, quand on sait que ce qui s'est passé quelques tours plus tôt, où même en ayant le DRS, en passant la voiture, Verstappen, il est à l'intérieur, dans tous les cas, il ira le pousser. On se demande ce qu'il faut faire pour le dépasser, quoi. Il faut limite. Il faut mettre deux voitures d'écart pour être sûr que quand je me rabats, il ne soit pas à mon inté ou à mon exté et en train de me pousser. Ça s'est déjà passé en Italie, à Monza, ça s'est passé en Émilie-Romagne, ça s'est passé à Barcelone.
C'est pas facile de doubler, hein, Max Verstappen.
Les premiers virages de chaque circuit sont assez compliqués. Et je pense qu'il les porte comme il faut, les balls, là, pour le coup, à chaque fois. Pourtant, il n'a pas un char d'assaut. Hein. C'est les As qui ont un char d'assaut à piloter. C'est pas... Et pour le coup, au final, on arrive, je pense, pour Netflix, sur un dernier épisode royal où on ne sait toujours pas qui va gagner. Et les deux sont capables de le gagner. On sait que l'année dernière, c'est Verstappen qui avait fait un très bon Grand Prix, tout en maîtrise. Ça montrait du coup du positif pour l'année prochaine. On savait que c'était que la RB16 de Red Bull était performante, qu'ils avaient mis les bonnes upgrades au bon endroit et que ça pouvait promettre pour 2022. C'est le cas. Mais Abu Dhabi, ça reste quand même un circuit Mercedes, type Mercedes. Après, 2022 est tout plein de surprises. Hein. On a vu sur des circuits type Mercedes que la Red Bull...
2021, tu veux dire.
2021, pardon. Ouais. Non, peut-être que je reste encore l'année prochaine, mais en tout cas, on a vu qu'en 2021, que la Red Bull sur les circuits typés Mercedes pouvait être compétitive, même plus compétitive que la Mercedes. Donc franchement, ça peut vraiment être cool à voir pour le prochain Grand Prix. En tout cas, pour ce Grand Prix-là, pénalité méritée. Je vous avoue, j'ai eu des grosses sueurs. Quand j'ai vu la touchette et l'aileron, je me suis dit, ah mais non, ça va pas finir comme ça.
C'était
Ah mais non, là j'étais vert.
Non mais c'était exceptionnel, ce Grand Prix tout du long, avec ces changements de position. À chaque fois on se disait c'est bon, c'est fini, les stratégies, ces accidents. Ouais. Assez ouf. Ok.
Ce qui est quand même paradoxal en plus, c'est que du coup Hamilton aussi tapait les records de meilleur tour à chaque tour, après l'avoir pété l'aileron. On s'est dit, ce gars-là, il gagne un Grand Prix sur trois roues, mais aussi il s'est tapé des meilleurs tours sans aileron, quoi. Le gars sait tout faire, quoi.
Ouais. Okay.
Vraiment très très fort, hein, de sa part.
Ouais, moi, je vais poser la question à Gerhard. Alors, malgré tout, là, on fait comme si la domination de la monoplace Mercedes était indéniable. Au gré de cette saison, il y a eu quand même des périodes où c'était pas vraiment le cas. Il y a eu des périodes où on a senti que la voiture Red Bull avait pris le dessus sur Mercedes. C'est maintenant chose révolue. Toi, Gerhard, qu'est-ce que tu penses de ce duel? Est-ce qu'on n'a pas dépassé les bornes sur ce Grand Prix? Pour le coup, certains disent que tu as dormi. Moi, j'ai pas du tout dormi pendant ce Grand Prix. C'était vraiment beaucoup de suspense.
Non, je suis d'accord. Le Grand Prix était plein de suspense et plein d'événements et de rebondissements. Il se trouve qu'effectivement, j'ai raté la fin du Grand Prix malgré moi, à cause de mon insolation.
Au Périgord, faut se méfier à l'insolation au Périgord.
Périgord, attention, hein, ça tape dur. Comment dire ? En fait, j'ai trouvé que c'était un peu du brouillon. C'était du brouillon qui donnait du suspense, mais ça restait du brouillon quand même. Parce que le combat, on a parlé beaucoup du combat en piste, mais c'était pas que le combat en piste. Le combat en piste se transpirait en combat dans les stands, qui transpirait avec les communications avec la FIA, que j'ai trouvé vraiment lamentable sur le Grand Prix.
Non, attends, on va utiliser parce que la dotation Radio Merguez & Co. A nettement augmenté sur cette fin de saison en Formule 1, parce qu'on a. Franchement, ça crée de l'audimat. Donc, on va écouter un extrait sur les échanges entre la FIA et notamment Red Bull. Alors, attention, c'est en anglais, mais on vous fera traduction un petit peu pour expliquer pour ceux qui ne sont pas bilingues. C'est parti.
Hi Michael. Hi. I'm going to give you the opportunity to start from grid position 2 for this, based on what occurred at turn 1-2.
Okay, thank you. We'll have an internal discussion on that. We felt we were pushed off there, so thank you for that. If we could have a minute to think about it.
Yeah, if you can come back to me within a minute or two, that would be great.
Okay.
Go ahead.
We would accept P2 on the basis that Ocon's on pole, correct?
We would drop you, we would drop you back behind Hamilton. Jonathan?
Yeah, I thought you'd said...
No, my apologies, because I hadn't looked at it. Back behind Lewis.
So he will be. So that would put Esteban on 1, Lewis 2, Max 3.
That is the offer, sorry. Yes. We will update it accordingly. The offer has been put there.
Thank you.
Obviously, if they choose not to accept that, then I will refer that to the stewards.
Copy that. Thank you.
Go ahead.
Yeah, we'll accept that. We understand the order will be Ocon, Hamilton, Verstappen.
That is correct. Ocon, Hamilton, Verstappen.
Okay, and you having a really good look at all that Bottas stuff under the... And also Hamilton dropping back under the formation lap just now?
Yeah, I'll have a look at it all. It was a standing start, restart, Jonathan, not a formation lap. Okay.
Voilà, c'était les échanges un peu les plus marquants entre la direction de course et les écuries, notamment Red Bull. Vas-y, Gerhard, tu disais que ça avait été un peu incroyable. Vas-y.
C'était un peu incroyable et je pense que l'extrait résume complètement l'atmosphère autour de ce Grand Prix, où ça a été du combat, du coup de récréation entre Mercedes et Red Bull, où la FIA est censée faire l'arbitre, mais l'arbitre se faisait plus ou moins piétiner aussi. Donc, concrètement, ce qui s'est passé là, c'est au deuxième départ, donc Verstappen part en pole, Hamilton est en seconde position, et Verstappen fait un mauvais départ, Hamilton prend le dessus très rapidement, on l'a expliqué, coupe le virage, ce qui crée en fait l'espace pour Ocon pour passer en première position, puis en seconde position après se faire doubler par Verstappen, alors que Hamilton, qui s'est fait complètement arrêter par Verstappen, qui rentre en piste de façon un peu dangereuse, j'ai envie de dire, reste en troisième position. Donc en fait, se pose le problème de probablement que Verstappen devrait rendre la position à Hamilton, pardon. Mais le problème, c'est que maintenant, Esteban Ocon est en seconde position entre Verstappen et Hamilton. Donc du coup, comment on fait ? Est-ce qu'on fait passer Ocon en première position et on fait passer Hamilton en deuxième position et Verstappen en troisième position ? Est-ce qu'on dit, bon, tant pis pour toi, Ocon, Hamilton est en première position parce que... Finalement, au départ, c'était lui qui était en première position. Il aurait dû rester en première position si Verstappen n'était pas là. Ouais. Il n'avait pas rejoint la course, donc pas passé Verstappen en deuxième position. Ou alors, est-ce qu'on fait un Hamilton, Ocon, Verstappen? Bref, c'était vraiment pas clair.
Non, mais alors juste, moi je me permets de t'interrompre. Moi je pense juste, on a évoqué cette histoire où Ocon c'était un peu le dindon de la farce. Je pense qu'on l'a seulement évoqué parce que si vous avez bien écouté l'extrait qu'on a diffusé, en fait Michael Masi il a tout simplement oublié Ocon dans l'équation. En fait, il s'est complètement planté quand il a contacté Red Bull pour dire qu'ils allaient partir deuxième derrière Hamilton. Il a juste oublié. Donc c'est plus, on va dire, de l'amateurisme pour moi, plutôt que le fait qu'ils avaient réellement envisagé qu'Ocon se fasse un peu arnaquer. Je te laisse continuer.
Non, je suis d'accord. Je suis d'accord, mais en fait le deuxième extrait est arrivé plus tard que quand il propose Red Bull finalement on vous fait placer en deuxième position. En fait, il précise pas qui est premier. Effectivement, tout le monde s'attend à ce que ce soit Hamilton, mais du coup, tout le monde se pose la question de qu'est-ce qui se passe pour Ocon. Et c'est effectivement quelques minutes plus tard quand on re-entend la communication entre Red Bull et la FIA où Red Bull dit OK, on est second, mais on est d'accord que c'est derrière Ocon. Et là, ils disent, ça ne marche pas, parce qu'effectivement, ça n'a pas de sens. Donc, voilà, moi, je trouve que cet extrait-là, c'était vraiment représentatif de l'amateurisme de la FIA. Commence un peu à peser, je trouve, parce que toutes les décisions sont. C'est jamais vraiment la même. Il y a pas vraiment de constance dans tout ce qui est fait. Le comportement de Verstappen, je pense, en découle un petit peu aussi. Je sais pas si je
même
pas,
Hamilton, je fais hein. Pas seulement, on peut pas
même tout Hamilton, mettre sur Verstappen. Exactement.
Quand on voit Hamilton dans les tours de formation, alors qu'il était pas vraiment les tours de formation, on voit toujours qu'il joue avec la limite de la règle, sachant qu'au final, on voit que ces limites de règles, elles peuvent un peu changer. En
exactement.
Tout cas, que même la direction de course ne les connaît pas bien.
Exactement. Et c'est ce que dit Red Bull à la fin, dans la dernière partie de l'extrait, fait remarquer à la FIA qu'il y a deux choses qu'il faut qu'ils regardent. C'est d'une part, au tout début, donc quand Schumacher est sorti de piste et qu'ils ont mis la safety car, Hamilton est en première position, Bottas en seconde position et Verstappen en troisième position. Bottas va... trop lentement en fait pour laisser le temps à Hamilton d'aller faire son changement de pneu et que lui puisse passer derrière et donc ce qui fait que finalement Verstappen rentre en première position après drapeau rouge, donc il repart en première position. Mais ça c'est quelque chose que Red Bull a demandé de regarder à la FIA. Et la deuxième chose, c'est comme tu l'as dit, Hamilton qui dans le tour de formation pour le deuxième départ, je ne sais pas si on appelle ça encore une fois le tour de formation, mais bon, bah, c'est ce qui ressemble au tour de formation. Effectivement, est très loin derrière Verstappen. Et ce qui, je pense aussi, crée le fait que Verstappen a un très mauvais départ parce que ses pneus sont complètement froids quand il redémarre et qui fait que Hamilton est bien plus à même de prendre un bon départ après. Donc voilà, et encore une fois, pas de constance. Enfin, moi je crois que c'était. Alors effectivement, c'est du spectacle, mais c'est un peu dommage parce qu'on ne sait plus vraiment trop comprendre. Même moi, en fait, moi j'ai tendance à dire que j'ai trouvé Verstappen trop agressif et il méritait toutes ces pénalités, mais au vu de cette année, je suis pas vraiment sûr parce qu'il y a des cas où ça a été accepté sans qu'on dise quoi que ce soit et d'autres cas où ça ne l'est pas. Donc je peux comprendre aussi le sentiment d'injustice qui peut transparaître.
Moi, je vais mettre un peu une pièce en plus là sur ces questions de réglementation et de direction de course. Moi, j'ai trouvé aussi que le départ du Grand Prix, enfin en tout cas ce qui s'est passé au début, notamment justement le premier drapeau rouge, cette question des arrêts au stand sous voiture de sécurité ou changement de pneus possible pendant les drapeaux rouges, etc. Nous, on est passionnés de Formule 1, etc. Mais quand quelqu'un qui n'y connaît pas grand-chose regarde un peu ces sortes d'arguties techniques qui sont juste au final passer au stand ou pas passer au stand, est-ce qu'il ne faudrait pas un peu aussi changer ça? Est-ce que au final, à chaque fois, c'est des paris, des paris stratégiques d'arrêt? C'est pas un peu ridicule? Moi, j'ai trouvé ça un peu ridicule quand même, le fait que le sort d'un Grand Prix puisse se jouer sur le pari ou pas qu'il y ait un drapeau rouge parce que la piste était trop dangereux de la nettoyer pour les commissaires de piste et pour les monoplaces. Je ne sais pas ce que vous pensez aussi de ça, au-delà du fait que pour moi, Michael Masi, c'est une année catastrophique pour lui quand même. Franchement, moi, ça m'a fait penser à la gestion de la Ligue 1 sur les incidents qu'il y a dans les stades. On voit pas de cohérence, on voit pas du tout à quoi ça sert les sanctions qu'ils prennent. Et du côté de la FIA, cette année, c'est un peu la même chose, sachant qu'en plus, de Grand Prix en Grand Prix, les sanctions sont différentes. Vas-y, Charles.
Bah, je suis totalement d'accord. Et ce débat-là, on l'a eu au Brésil. Et Gerhard, il l'a redit, ça manque de constance. On ne sait jamais, d'un Grand Prix à un autre, si un pilote pousse hors trajectoire un autre pilote, qu'est-ce qu'il va avoir? Est-ce que il va y avoir 5 secondes, ou est-ce que vu qu'il y a des runoffs, est-ce que il va pas y perdre grand-chose, c'est pas très grave. Si du coup par contre s'il y a des murs, c'est 5 secondes. S'il y a du gravier comme en Autriche, c'est 5 secondes. On n'en sait rien. Et bon, alors le fait que les commissaires changent tous les week-ends, on pourrait croire que c'est ça peut être ça, mais en soi. Dans tout sport collectif, que ce soit au rugby, au foot, l'arbitre il change tous les week-ends et du coup l'arbitrage est globalement le même, mais sur les points précis sera différent. Mais là c'est quand même gros et sur des points comme ça quoi. Donc c'est clair que je pense qu'on se demande surtout on se demande quand est-ce qu'il y aura un peu plus de constance et clairement quelle est la marge qu'ont les pilotes quand on garde un Grand Prix, surtout que des fois ça peut prendre 15 tours avant que la sentence ça tombe. Donc en plus du coup ça devient compliqué pour les spectateurs, les commissaires de comprendre tout ça, hein. Et c'est pas un sport non plus où on comprend tout de suite et les enjeux en fait qu'il y a derrière ces pénalités. Donc ouais, là, il faut à un moment donné se reposer les bonnes questions sur comment on peut adapter le système pour qu'il soit le plus constant et fiable aussi. Mmh. Que les pilotes sachent que à un moment donné, faut arrêter de pousser comme ça et ou soit on peut y aller, vas-y. On les laisse courir sur les 22 minutes ou c'est juste ça quoi. C'est un peu...
Après, ce qu'il y a, c'est que c'est aussi un équilibre difficile à trouver, parce que ce qui rend cette saison passionnante quand même, c'est l'engagement que peuvent avoir Hamilton et Verstappen, cette aussi différence de style et de caractère entre le multi-champion du monde qui maîtrise et qui en même temps s'engage aussi fortement et qui pousse aussi les limites, et par rapport à un Verstappen qui est beaucoup plus agressif, qui est presque un adolescent qui va à chaque fois essayer de dépasser les limites pour voir si on va lui mettre une petite tape sur la tête pour lui dire écoute t'arrêtes de faire ça, et lui il pousse ce système qu'on vient de décrire jusqu'au bout, et c'est ça qui fait que ce Grand Prix là était passionnant, même si là il est peut-être allé un peu loin, un peu trop de façon répétée pendant cette course. Lance, quelque chose à ajouter sur ce duel incroyable qui aboutit, alors on n'a pas fait le point exact comptable, mais là on a effectivement Hamilton et Verstappen qui sont à égalité de points au classement mondial, qui vont donc jouer le titre sur ce dernier Grand Prix d'Abu Dhabi qui aura lieu dès ce week-end.
Moi, pour tout ce qui est... sur les commissaires, etc. Je vais bien sûr dans votre sens. C'est même la plus de régularité, c'est même l'absence de sanctions. Si nos amis Mercedes avaient été sanctionnés comme ils le devraient depuis quelques grands prix, aussi bien Bottas qu'Hamilton à faire traîner pour que Verstappen ne puisse pas se lancer au démarrage et des pneus froids, peut-être qu'ils arrêteraient de le faire. Tant qu'ils ne sont pas sanctionnés, les mecs, ils le font. Verstappen, il est plus qu'à la limite depuis quelques Grands Prix. Comme tu dis, le gamin turbulent qui essaye toujours de gratter un petit peu plus à chaque fois, là, peut-être qu'on a atteint la limite de la limite, et qu'avec ces trois, avec les places qui doivent être données, les 10 secondes de pénalité, etc., il sait qu'il ne pourra pas se le permettre au prochain Grand Prix. Mm. Parce qu'il est dans l'œil des commissaires, et même si, et après ça reste humain, c'est-à-dire que même si on, dans l'idéal, on considère que l'arbitrage est le même partout, tu faisais la référence justement au foot, on voit bien que c'est pas la même chose. C'est bien pour ça que le board en foot a tant de mal à dessiner les règles, rien qu'avec les mains par exemple, où il en était arrivé à ce que tout ballon qui touche la main dans la surface crée un pénalty. Parce que c'était tellement au jugé des... des arbitres, et en plus que ce soit le Real Madrid et Sergio Ramos qui fassent une main dans la surface, c'était pas sifflé de la même façon que
Attends, tu veux pas Roger, me dire que t'es team FC Barcelone, t'es déjà team Verstappen, là tu vas me dire que t'es team FC Barcelone.
Et ton supporter
ça fait
parisien,
beaucoup, ça fait beaucoup Lens quand même.
Et étant supporter parisien, je ne peux décemment plus être supporter de Barcelone. C'est okay. Bon, on parlait de la MAFIA, certains avec notre ami de la Fédération internationale de l'automobile. On sait qui tenait les cordons de l'UEFA.
Non, mais en vrai, enfin, ce qui se passe, c'est que à la différence du foot, c'est que là, on a un duel entre deux pilotes qui ont des caractères assez différents. Comme j'ai dit, on a quand même un côté plus agressif du côté de Verstappen et la FIA, qui est quand même l'idée pour que ce soit pour l'UEFA, pour la FIA, pour chaque fédération de sport, c'est aussi de vendre leur sport. Et ce duel au sommet entre Verstappen et Hamilton, c'est la poule aux œufs d'or pour un sport comme la Formule 1 qui a gagné beaucoup en audience. Même nous, en tant que spectateurs amateurs de Formule 1, on a envie de les voir se battre. Un Grand Prix comme celui qu'on a vu, et c'était plutôt, je trouve, chouette, en dehors évidemment de, on va dire, ce temps de latence des décisions de la direction de course, ces arguties techniques sur est-ce qu'on peut changer les pneus, on peut pas changer les pneus, est-ce que on a le droit de prendre son temps pour se mettre en position sur la grille. Enfin, il y a vraiment beaucoup de règles qui, en fait, sont suspendues à un jugement humain qui varie.
Et c'est aussi qui fait les différentes erreurs, parce qu'on a vu que certains autres pilotes se sont fait sanctionner, par exemple, justement pour prendre leur temps, pour prendre leur place sur la grille, se sont fait sanctionner, ou deux types de dépassements un peu trop agressifs se sont fait sanctionner aussi, et plus rapidement. Mais comme tu le dis très bien, il serait dommage d'amputer un duel comme ça, qui en plus maintenant, paroxysme se termine sur une égalité avant la dernière course. Je pense que ça, c'est quand même l'apothéose. C'est comme en n'importe quel sport, où tu as les deux meilleures équipes qui sont à égalité et qui se rencontrent dans la dernière journée du championnat.
C'est exactement
c'est la finale de la saison. Et autant dire que même pendant la Ligue des Champions hier, à la mi-temps du match de Paris, tu as Margot Laffitte qui est venue vendre le Grand Prix de dimanche. Donc, ils sont quand même venus le vendre sur un plateau de football qui est le sport le plus regardé du monde. Voilà, ils sont venus vendre le Grand Prix parce qu'ils savent que c'est un événement et que ça va être jeté par tout le monde. Le Grand Prix est à 14h en plus. Donc,
on va peut-être parler un peu sur la télé de façon générale. Le Canal a peut-être un peu tendance à se détacher un peu du foot et donc à mettre en valeur des sports comme la Formule 1, où c'est vraiment l'année de rêve pour le vendre.
Même sans ça, je pense qu'il l'aurait quand même survendu, hein, parce que bon, même si au même moment c'est prime et ça sera encore sûrement le match de Rennes à 13h, c'est là pour le coup, ils peuvent faire la publicité. Et je pense que même s'ils étaient à leur paroxysme du foot, ils l'auraient vendu. Parce que là pour le coup, s'ils ne vendent pas ce Grand Prix-là, je me demande bien ce qu'ils peuvent vendre.
Ok, on va donc rappeler quand même que le prochain Grand Prix, c'est 14h dimanche. On espère que Gareth pourra le regarder tout éveillé, même si 14h dimanche dans le Périgord, c'est aussi l'heure de la sieste.
Le soleil, il tombe tôt là-bas, il fait nuit tôt.
C'est ça.
Bon. C'est la digestion des magrets.
Ouais, c'est ça. Alors, on a beaucoup parlé de ce duel, évidemment, au sommet, et c'est bien normal, parce qu'à la fois, c'est un duel pour le championnat des pilotes, aussi pour le championnat constructeur. C'est justement là l'occasion de parler des performances des coéquipiers, on va dire, de Bottas et Pérez. On avait dit que Pérez semblait en difficulté sur ce Grand Prix qui était effectivement pour la première fois au calendrier de la F1. On a vu en Bottas, que moi j'ai trouvé aussi en difficulté sur ce Grand Prix, puisque on a quand même une voiture qui est nettement meilleure que celle des autres et qui a eu beaucoup de mal à remonter en course, hein, et c'est le cas très régulièrement, à la différence de son comparse Lewis, qui lui a pas trop de mal à dépasser finalement les autres compétiteurs. Au niveau du classement, donc on avait justement une troisième position de Bottas qui a coiffé sur le poteau Ocon, avec un Ricciardo cinquième, Gasly toujours sérieux et solide en sixième position, c'est la même place que en qualification, et puis septième Leclerc, huitième Sainz, les deux Ferrari 7 et 8, Giovinazzi un surprenant neuvième en Alfa Romeo, dixième Norris, onzième Stroll, et puis bon, à noter abandon de Vettel, Perez, Mazepin, Russell et Schumacher. Est-ce que voilà, moi j'ai trouvé voilà un Bottas qui voilà qui était un peu loin de tout, alors qu'il aurait pu venir un peu soutenir Hamilton, et notamment c'est plus Ocon qui a bloqué Verstappen pour sa tentative de meilleur tour sur la fin, et puis un Perez qui on n'a pas senti bien sur ce week-end. Est-ce que vous avez vous aussi vous partagez cet avis sur les coéquipiers de nos deux champions, Gerhard?
Bottas, je ne l'ai pas trop eu, mais je pense qu'effectivement, sa course était assez fantomatique, bloquée derrière Ocon, et je pense que ça n'a pas non plus été aidé par la retransmission qui était extrêmement focalisée sur le duel au sommet Hamilton-Verstappen. En revanche, pour Perez, autant effectivement il galère pas mal en qualif, autant on sait qu'il sait quand même sortir des bonnes performances de son chapeau en course, et je pense que c'était un peu ce qu'il avait c'était un peu le comment dire jusqu'à ce qu'il sorte qu'il ait son accrochage avec Leclerc. Il était plutôt bien parti, je trouvais. Perez, il avait l'air assez confiant. Mm-hmm. Il avait un bon rythme, et bon, malheureusement pour lui, je pense que c'est ni de sa faute ni la faute de Leclerc. Je sais plus qui c'est le troisième compère, je crois que c'est Gasly qui plus ou moins trois en sandwich, et bon, il y a des incompréhensions. D'ailleurs, je pense que Leclerc a vachement de chance de s'en tirer indemne.
Oui, tout à fait.
Mais c'est un peu dommage pour Perez, parce que mine de rien, là, c'est en tout cas le championnat constructeur, il est pillé, je pense, à ce stade-là. C'est pas vraiment de possibilité.
On peut faire un petit point sur justement constructeur. On a Mercedes qui est à 587,5 points. Red Bull à 559,5, donc on voit quand même il faut faire le calcul, hein. C'est pas évident, mais je pense qu'il y a environ 28 points d'écart entre les deux.
Et donc, j'ai 558, mais ouais, sur l'équipe, bon, c'est 28 ou 29 points, quoi. C'est
pour moi 28 points d'écart, donc effectivement, ça semble un peu plié. Après, bon, on sait jamais ce qui peut se passer, hein. Tant que le drapeau d'Amier n'a pas été brandi et agité, c'est pas fini. Mais ça semble compromis pour Red Bull, qui au final a eu un week-end plutôt décevant. Un autre avis sur les performances distinctes de Bottas et Perez, ou et puis sinon on peut passer directement à notre rubrique franchise.
C'est ce qu'on disait, hein, Lewis a le meilleur partenaire des deux, quoi. C'est-à-dire Perez totalement irrégulier, quoi. Enfin, totalement régulier, non, parce que sur, je jette un petit coup d'œil sur les dernières courses, il fait. Il a fini pas, mais sur les cinq d'avant, il fait deux fois troisième et deux fois quatrième. Donc, en fait, c'était même Bottas qui était pas régulier. Donc, bon, en fait, je retire, c'était une connerie, comme dirait l'autre.
Ok, Charles, t'as envie de dire des choses sur Bottas Perez, ou je passe directement à notre rubrique franchise?
Non, tout a été dit sur les deux lieutenants. Il n'y a pas de choses à rajouter.
Ok, bon, on peut juste rajouter que par exemple sur le Grand Prix précédent de Doha, il me semble que Bottas n'avait pas fini, il avait abandonné, Mercedes avait retiré la voiture. Donc, alors que Perez avait lui-même fini quatrième position. Donc, voilà, bon, ça se tient, mais là vraiment sur. C'était pas. Voilà, je pense que Perez avait peut-être envie de compenser des qualifs un peu moyennes, ou en tout cas une saison finalement un petit peu décevante de sa part. Et ben non, on va passer tout de suite à notre rubrique des franchises, puisqu'il y en a deux. Il y a une écurie française et deux Français sur la grille. Chaque week-end, on avait un Gasly qui nous avait déjà vraiment encore une fois séduit en qualification en prenant une P6 et puis qui finit sixième en course. Gasly toujours super solide, et on le voit quand même en interview de temps en temps rappeler que lui il est là, et puis Perez qui a entre guillemets sa place chez Red Bull, il est pas là. Est-ce que Charles, c'est ton avis aussi, est-ce que à un moment donné, est-ce que franchement, je vais le mettre les pieds dans le plat. Est-ce que Hamilton va être champion cette saison et puis il va décider de quitter sa carrière de pilote au sommet et puis il va être remplacé par Gasly dès l'année prochaine?
En vrai, alors, s'il fait ça, Hamilton, c'est beau, hein, effectivement. Après, quand Rosberg était parti en 2016 après son sacre, Hamilton avait été déçu de dire qu'un champion ne défend pas son titre. Bon, après, Hamilton, il n'a plus rien à prouver. Pour le coup, il bat tous les records. Voilà, changement de réglementation totale sur la voiture. Est-ce qu'il a envie de se rembarquer dans une nouvelle lutte effrénée où il y aura 23 Grands Prix? Donc, c'est quand même la saison où il y aura plus de Grands Prix. Bon, pour le moment, parce qu'avec le Covid, on ne sait jamais. Après, s'il part, est-ce que Gasly serait dans la Mercedes? Peut-être pour moi trop tôt. J'envisage limite un scénario où Toto Wolff reste manager d'Esteban Ocon. Esteban Ocon, il a été pilote Mercedes très longtemps. On a Oscar Piastri qui mène le championnat de Formule 2, qui sera réserviste chez Alpine l'année prochaine. Est-ce que clairement, Toto Wolff, il a envie de prendre le risque de casser un contrat Red Bull pour prendre Gasly, sachant que je pense que Red Bull n'a pas envie forcément de se détacher de Gasly tout de suite. C'est un très bon leader chez AlphaTauri. Il n'a jamais ramené autant de points dans sa carrière en F1. Il avait fait 96 en 2019, il me semble. Donc, il n'a jamais fait aussi bien qu'avant. Donc là, il performe super bien avec AlphaTauri. Ce qui est très bien pour italienne, hein, d'avoir un gars comme Gasly, ça les met très très bien pour le championnat. Est-ce que vraiment ça vaut le coup pour Gasly? Je pense oui. Qui n'a pas envie de piloter la meilleure voiture du plateau? Là-dessus, c'est clair.
Moi, c'était un peu de la. Ça peut se produire, mais bon, c'était un peu une dystopie. Mais c'est pour évoquer quand même une solidité certaine, hein, d'un Gasly qui a, on a vu sur le Grand Prix précédent, qui était très bien sur la grille et qui au final a eu des très mauvaises performances en course parce qu'ils ont des difficultés avec la voiture. Là, sur ce Grand Prix, sixième sur la grille, sixième pour finir. Voilà, on a quelqu'un de super solide, quelqu'un qui au final, avec une voiture moins forte, fait de meilleures performances, même si ça se voit pas complètement comptablement, mais qui fait des meilleures performances que le gars qui lui a pris sa place ou que l'un des gars qui lui a pris sa place dans l'écurie mère. Voilà, on se dit...
Gasly, c'est clairement un monstre en qualif. En qualif, c'est Monsieur P5 ou Monsieur P6, hein, je sais pas comment on doit l'appeler, mais clairement, il fait le troisième... Souvent, il y a encore en 2018-2019, c'était les trois meilleurs, les top 3 se partageaient les 6 premières positions. Et souvent, quand tu étais P6, c'est souvent que tu étais soit le dernier des meilleurs ou P7 si tu étais le meilleur du reste. Quoi. Là, il fait des P5, des P4, des P6. Avec AlphaTauri qui est 5e, 6e au championnat, c'est juste énorme. Quoi. Après, la voiture, ils ne sont pas 6e au championnat pour rien. Quoi, hein. La voiture en course. C'est un peu moins ça, et vraiment, en fonction du circuit, il fait comme il peut. Quoi.
Ok. Et puis, bon, on va parler quand même de notre cher Esteban Ocon, quand même, qui, au final, chaque Grand Prix, il fait le maximum, et puis son maximum commence à devenir effectivement particulièrement intéressant, parce que là, c'est quand même les gros points qui sont tombés, quatrième position. Alors, on a entendu un Esteban Ocon extrêmement frustré à l'issue de la course, puisqu'il tenait sa troisième place devant Bottas jusque dans les derniers mètres et il s'est fait doubler. Écoutons ça.
No, for fuck's sake! Joke. Fuck.
Sorry, mate. All right. That's scenario 12, please. Scenario 12. Okay. All right.
Both red line speed at the end there. For fuck's sake. Missed by not much, but yeah. Sorry, guys. Sorry for that.
You gave it everything, and you were setting purple first sectors right until the end. So you should be very proud of yourself. And yes, okay, we didn't quite get a podium, but still achieved our goal. We beat Gasly by 2 positions. That puts us in a very good place at the end of the season. All right, well done. That was a stunning drive.
Yeah, copy that.
Ben voilà, on a entendu la réaction d'Ocon qui se fait dépasser dans les derniers mètres, et puis son les ingénieurs, l'écurie qui lui disent, écoute gars, on est quatrième, c'est cool pour nous, on a pris des points par rapport à Alpha Tauri, c'est bon, on a sécurisé cette place de cinquième écurie au championnat. Écoute, Gerhardt, on t'a pas entendu sur Gasly, tu peux laisser glisser quelques mots, mais là Ocon, grosse performance, franchement je l'ai trouvé vraiment très bon sur ce Grand Prix. Il a réussi à éviter les pièges qu'il pouvait y avoir avec les deux fous furieux devant, et il s'en sort très bien, sachant qu'effectivement, comme on l'a entendu dans cet extrait, il a quand même essayé de jouer sa carte jusqu'au bout, essayer de conserver sa troisième place sur Bottas, puisqu'on l'a quand même vu réussir le meilleur premier secteur dans son dernier tour. Donc chose assez incroyable et chose à noter.
Ouais, je suis d'accord. Et pourtant, je ne suis pas un fan de Esteban Ocon, mais je reconnais qu'il y a quelques courses comme ça où on ne sait pas trop d'où, et il est extrêmement puissant. Et c'est pas rien, en fait, cette quatrième place, parce que ça fait du coup conserver une avance vraiment confortable pour Renault. Pardon, Alpine, pour choper la cinquième place au constructeur devant les AlphaTauri de Gasly et Tsunoda, qui, je pense, à ce stade-là, je n'ai pas le classement en tête, mais je pense pas qu'à ce stade-là, elles peuvent remonter la cinquième place.
29 points.
29 points, oui. Comme...
29
points,
on est d'accord, hein, effectivement.
donc non, c'est vraiment bien joué. Et je pense qu'on avait un petit peu peur que Esteban Ocon se fasse bouffer entre guillemets par Alonso dans l'écurie. On a vu que ça a été compliqué pour lui une fois qu'Alonso a demandé plus ou moins quelques changements sur la voiture qui lui convienne mieux pour son pilotage.
Puis aussi quand il a signé sa méga prolongation là, qui a surpris d'ailleurs pas mal de monde, il est un peu en contre-choc psychologique, il me semble.
C'est vrai. Non, je suis d'accord. Et mine de rien, sur cette fin de saison, j'ai l'impression que il y a des courses où Alonso va être très bon, Ocon va être très bon, et finalement les deux se balancent bien, et c'est ça en fait qui fait qu'ils arrivent avec Alpine cinquième au championnat, parce que Gasly est très loin devant eux, et c'était ça aussi le problème, c'est que finalement Gasly a un partenaire Tsunoda où il n'a rien compris, mais c'est 100 points pour Gasly versus 20 points pour Tsunoda. Alors effectivement, c'est sa première année en Formule 1, c'est un rookie, il y a plein de choses qu'il a à apprendre, mais bon, pour le Messi qu'on attendait en début de saison, je dois avouer que c'est un petit peu refroidi à la fin. Et si l'AlphaTauri, qui je pense intrinsèquement est probablement meilleur que l'Alpine, l'AlphaTauri est derrière au classement constructeur, c'est essentiellement à cause de Tsunoda, malheureusement pour lui.
Tout à fait, ouais. Mais après on peut aussi noter que Alonso on l'a pas ressenti très à l'aise non plus sur ce nouveau circuit. Il était un peu à la limite, il a sauvé à un moment donné, il est parti en sucette avec sa voiture, il a réussi à pas percuter un mur, ça s'est joué à pas grand chose, il a réussi à rattraper la manœuvre, mais c'était chaud. Est-ce que vous avez des points ajoutés de plus sur nos Français, Charles par exemple ?
Non, je pense que Gerhardt a très bien résumé le cas Ocon, pour le coup.
Ok, bon, là on a fait le tour des Français, peut-être au-delà de nos grands champions Hamilton, Lewis et de leurs coéquipiers, peut-être des satisfactions et des déceptions sur ce Grand Prix. On a vu au final des Ferrari qui semblaient pas trop à l'aise, puisqu'on avait vu un Leclerc accidenté assez fortement en essai libre et qui avait lui-même indiqué en interview qu'il allait falloir qu'il reconstruise sa confiance au gré des tours sur ce circuit qui a quand même été considéré par l'ensemble des pilotes comme à la fois excitant et en même temps dangereux. En tout cas, l'ensemble des pilotes ont tous dit en interview après la course que ce Grand Prix était demandé une concentration tour après tour pendant toute la durée de ces 50 tours, et ces 50 assez longs tours, même si on va vite. Mais donc, on a vu des Ferrari qui finissent finalement plutôt bien classés en étant 7 et 8. Et puis, on a un Giovinazzi en 9e position... c'est assez surprenant, et puis un Ricciardo cinquième qui un peu arrive à montrer que même si sa saison a été difficile, qu'il existe encore, tandis que son coéquipier Norris lui n'est que dixième. Lance, les plus et moins de ce Grand Prix sur justement cet avant-dernier Grand Prix de la saison.
Les plus forcément, c'est les rebondissements dans tous les sens. Un Grand Prix qui finalement au premier tour aux deux roues et au passage du drapeau à damier a duré plus de 2 heures. des deux heures où on s'est pas ennuyé, où parfois on frôlait le tragicomique. C'était donc il y a vraiment tout eu. Il y a eu des beaux dépassements, il y a eu de l'agressivité mal placée, de la FIA clownesque. Enfin bref, on a vraiment eu un condensé de la saison en deux heures. Les moins. Après les plus aussi, oui, c'est vrai que tu parlais du fait que les pilotes appréciaient apparemment de faire ce circuit. C'est vrai que les on-board qui ont été montrés pendant tout le week-end, c'est vrai que tu avais juste une envie, c'est d'être avec eux, quoi. C'est-à-dire les murs qui passent, qui filent autour. Je pense que les mecs, au moins sur les qualifs, où les essais ont pris leurs pieds, c'était apparemment une autre paire de manches pendant la course, parce que au premier arrêt, au premier drapeau rouge, quand les pilotes sont sortis, les gars, ils avaient fait 10 tours et ils étaient rouges comme des pivoines. C'est-à-dire, c'est comme nous quand on marchait dans le désert, quoi. On a l'impression qu'ils s'étaient pris une insolation et tu te demandais finalement comment ils allaient finir, quoi. Et qu'au final, est-ce qu'il y aurait pu y avoir un troisième drapeau rouge, parce qu'un mec, justement, complètement claqué, qui saisit mal un virage et qui finit dans les balustrades, quoi. Donc, non, c'est vraiment un Grand Prix très, très plaisant. J'ai vraiment pris du plaisir à le regarder. Sur les moins, on va dire l'attitude de la FIA, quoi. Sur de la réglementation à la carte,
c'est la FIA. Est-ce que tu aurais pris le deal, toi ? Est-ce que tu aurais pris le deal ou pas ? C'est ça la question.
Si les mecs ont accepté, c'est que, tu sais, on dit très souvent que qui se sent morveux se mouche. Donc si Red Bull a accepté, c'est qu'ils savaient que derrière, ils risquaient plus de pénalités que de pertes, que de gains à essayer justement de dire « Ouais, mais nous, on a fait ça, et eux, ils vont lentement sur le tour de formation, c'est pas du jeu. » Ils ont accepté, et après, je pense qu'en plus, s'il y avait eu quelque chose à regarder après la course, pas forcément convaincu que le comportement de Verstappen sur le reste de la course aurait plaidé en sa faveur et en mansuétude des commissaires ou de la direction de course s'ils avaient dû réfléchir à être posés deux, trois jours après. Je pense qu'ils auraient même pu charger la mulasse et il aurait pu perdre plus de place et finalement pas partir égalité avec Lewis, mais plutôt quelques points derrière. Alors, parce que est-ce que la FIA aurait osé et privé Netflix de sa finale ?
Non, y a pas de... on aime bien les complots, mais tout n'est pas complot quand même. Et puis, il n'y a pas eu que du moins pour Verstappen au niveau réglementation.
On n'avait pas lancé assez de merguez pendant l'émission. Il fallait bien que je distribue.
L'émission n'est pas finie. Il nous reste quand même pas mal de choses à dire, notamment les pronostics. Mais qu'est-ce que je veux dire ? S'il n'y avait pas eu ce premier drapeau jaune, cette voiture de sécurité, ces arrêts de Mercedes qui, au final, se sont révélés au final inutiles pour cause de drapeau rouge derrière, déjà Verstappen aurait, avec ce coup de poker de la part de sa stratégie d'équipe, il aurait pas eu aussi ses avantages. Gerhard, t'es plus et t'es moins sur ce Grand Prix, en plus de ceux qu'on a déjà évoqués. Vas-y, je te laisse en discuter.
J'ai pas vraiment de plus et de moins en plus de ce dont on a déjà parlé, mais juste pour effectivement revenir sur le point dont tu finis juste de parler, sur le coup de poker de Red Bull pour laisser Verstappen sortir. C'est là aussi il y a encore de l'inconstance avec la FIA, c'est-à-dire que il me semble que Leclerc qui sort en essai libre, c'est drapeau rouge tout de suite et il n'y a pas à discuter et tout le monde ensemble et puis point barre. Là on a eu la safety car pour je pense un tour et demi, trois tours. Et finalement drapeau rouge après. Alors pourquoi il a fallu attendre autant de temps, pourquoi c'est pas quelque chose qui devait être automatique, je sais pas, peut-être qu'il y a une différence entre essai libre et course, mais
en essai libre, pour, excuse-moi de couper Gareth, mais en essai libre, il s'est planté à 3 minutes de la fin, je crois, de la séance, tu vois. Et en essai libre, il n'y a pas de safety car. Donc en fait, il met drapeau rouge direct. Et,
d'accord, et, ok.
Tu t'embêtes pas, quoi.
Ouais, ok. Bon, je le voyais plus dans le sens où finalement, c'est un incident qui est finalement exactement le même. Et pourquoi il aura un traitement versus ça. Mais j'entends effectivement le pas de safety car pendant l'essai libre. Cela étant dit, je sais pas, tout le monde disait avant le départ que sortir les voitures, c'est extrêmement compliqué sur le circuit où finalement il n'y a pas vraiment de zone de dégagement. Donc n'importe laquelle des voitures qui reste sur la piste, finalement ça devrait ça devrait déclencher un drapeau rouge direct. Et que et je pense d'ailleurs que Hamilton en fait plus ou moins état quand il se plaint à la radio. Bon, il y a eu beaucoup de plaintes à la radio dans le Grand Prix, mais il me semble que quand il arrive dans les stands pour le drapeau rouge, il demande pourquoi c'est pas arrivé plutôt. Mmh. Ou un commentaire aussi. Hein. Donc effectivement, bon bah après ça nous a arrangé parce que c'était ça a ajouté un petit peu de piment, mais ça a fait la. Par exemple, je pense que Leclerc en pâtit énormément. Leclerc fait un très bon début de course. Tente la stratégie comme les Mercedes de changer les pneus pendant un safety car et finalement se retrouve derrière tout le monde quand il s'agit de recommencer. Et pareil, on pourrait effectivement se poser la question de drapeau rouge, très bien. Finalement, si c'est juste pour sortir des voitures et du circuit parce qu'on peut pas rouler à côté, est-ce qu'on vraiment a le droit de changer les pneus? Est-ce qu'on a le droit de changer les éléments de la voiture? Je pense qu'il y a une vraie refonte du code de la FIA qui doit ressembler un peu au code du travail français sur beaucoup de points.
Il y a beaucoup de pages à lire pour
tout. Ouais, et puis j'ai pas envie de rediscuter de choses dont on a déjà discuté, mais par exemple l'histoire de Verstappen qui se plaint qu'Hamilton au deuxième départ met trop longtemps à arriver sur la grille. La réponse de Michael Massey, c'est plus ou moins. C'est pas un tour d'information, donc ça s'applique pas vraiment. C'est exactement la même chose.
Mais alors, donc, juste pour sortir un peu de ces arguties sur le règlement qui effectivement gagnerait à être un peu plus simple et systématique, on n'en a pas encore parlé. Moi, j'étais assez surpris, justement, tu le dis toi-même, Gerhard, qu'au final, le drapeau rouge, il est quasi systématique sur ce circuit. Et au final, Mercedes prend ce risque de faire arrêter ces deux voitures, alors qu'ils auraient pu déjà faire un peu une stratégie à la Red Bull d'en arrêter qu'une sur deux, sachant qu'ils occupaient les deux premières places à ce moment-là de la course. Charles, tu penses quoi de ça? Et puis, on les attend aussi.
La stratégie, effectivement, elle est osée. J'ai pas forcément compris non plus. Après, les deux étaient en tête. Il me semble. Hein.
Oui, c'est ça.
Bottas était P2. Donc se dire qu'on savait que c'était un seul arrêt, vu que les pneus se comportaient bien. En soi, ils avaient un bon rythme tous les deux, je pense, pour s'échapper. Donc, why not? L'undercut n'allait pas forcément super bien marcher, mais ils savaient que potentiellement, ils allaient pouvoir revenir sur Verstappen pas trop mal. Je pense que j'aurais pas aimé être dans le box de Mercedes quand ils ont vu le drapeau rouge parce que ça a dû être sûrement la soupe à la grimace. Ouais. Je pense.
Après, il a pas jeté son casque.
Non, pas à ce moment-là.
Mais pas loin, je pense. Il a jeté un autre truc. Je sais pas le calendrier de l'avant qu'il avait sur son.
Mais
sur son bureau.
C'est Norris. Norris l'a dit. Alors, je sais pas si Norris s'est arrêté au moment du drapeau rouge, mais clairement, il s'est arrêté pendant le safety car. Clairement, c'est un peu la loterie, hein, le drapeau rouge pour changement de pneus. C'est vrai que cette règle-là, elle est un petit peu bizarre. On l'a vu hein, quand Gasly a gagné, c'est grâce à ça qu'il a
ouais,
enfin, même
fait.
Pas, hein, même pas, parce qu'il a même pas changé ses pneus, mais il avait changé ses pneus avant, ce qui lui a permis de. Bref. Concernant mes coups de cœur
et
mes plus et mes moins, je dirais en moins la fin de saison d'Aston Martin. Clairement ils sont en roue libre les deux, enfin ils sont transparents là. C'est quand on entend la radio de Vettel, quand son ingénieur lui dit t'es P17, il sort un what qui même lui, je pense que ça fait longtemps qu'il a pas fait une qualif aussi horrible. enfin Vettel qui est quasi à une seconde, je crois, du meilleur temps de la Q1, quoi. Mm-hmm. Donc, c'est dire comment c'était pas performante du tout. C'est quand même fou. En point positif, à vrai dire, j'en ai pas vraiment. En fait, j'hésite entre me dire, bah, quand même, Hamilton, il revient bien, mais bon, on savait qu'il allait bien venir. Cocon, au final, s'en tire quand même très bien. Il fait un très bon Grand Prix, encore une fois. Au départ, il arrive toujours à gratter des places. C'est peut-être ça, hein, au final, le point positif de du week-end, c'est pour Alpine qui...
Tout à fait.
Valide leur ticket pour la cinquième place. C'est ça, cinquième place.
Tout à fait.
Donc ouais, point positif pour Ocon qui permet à l'équipe, quand Alonso va pas bien, Ocon prend le relais et chacun son tour. C'est plutôt cool pour eux pour la fin de saison de finir comme ça et pas finir comme les Aston Martin.
Ok, et bien voilà l'heure d'écouter l'avis de Fernando Gaspacho sur ce week-end de Grand Prix. Fernando qui n'a pas pu être là suite à différents problèmes, notamment de voix, et écoutons-le.
Hello à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, en tout cas mieux que moi, avec l'équipe merguez pour débriefer ce barbecue F1 du Grand Prix d'Arabie Saoudite à Jeddah. Ce petit message vocal juste pour vous donner mes quelques appréciations sur le Grand Prix, et on commence notamment avec le circuit qui était attendu et qui manifestement a été terminé dans les temps, bon, mis à part quelques fuites d'eau dans les stands. Circuit, peu abrasif visiblement au niveau des pneumatiques puisque peu de rejet d'huile et pas autant de saleté que prévu. Donc agréablement surpris du circuit, de la vitesse moyenne de 250 km/h, ce qui n'est pas rien. Une retenue en apnée sur beaucoup de secteurs, donc qui a plu à pas mal de pilotes et qui en laissait présager, plutôt une bonne compétition à la fois en Formule 2 et on l'a vu en Formule 1. Le deuxième point, c'est la bataille d'Hamilton et Verstappen qui nous a mis en haleine. Encore des rebondissements, tout au long du Grand Prix. Un Lewis Hamilton, solide, qui a essayé, de maintenir sa position et qui l'a regagné, pour la fin du Grand Prix. Et un Max Verstappen, vraiment chauffé à boulet rouge et qui n'en manque pas une pour rendre, œil pour œil et dent pour dent à Lewis Hamilton. Mais à l'arrivée, Lewis Hamilton gagne ce Grand Prix, de Jeddah. Une pensée pour nos Français, les franchises, qui ont réalisé un excellent week-end. Ocon est vraiment passé à vraiment deux doigts de voir son deuxième podium en Formule 1 sur sa première année en Alpine. Donc, c'est encore à perfectionner, mais la Mercedes de Bottas, pour la deuxième fois, parce que la dernière fois c'était à Bakou en 2017 avec Lance Stroll, il nous a refait la même, le Finlandais, en reprenant et en chippant le podium, aux Français, sur les derniers hectomètres du Grand Prix. Un Pierre Gasly également en forme, qui finit sixième de ce Grand Prix, qui montre encore la bonne tenue, la bonne performance du Français au sein de l'écurie AlphaTauri, et également de son coéquipier, Niki Tsunoda, qui lui a également été, satisfait de ce Grand Prix, et nous aussi, je trouve qu'il a été plutôt plaisant à voir et à performer sur ce Grand Prix. Un petit mot des Ferrari, bien évidemment, je ne pouvais pas y passer à côté. Petit mot pour vous dire que j'étais un petit peu, en mitigé sur ce week-end de Grand Prix. Alors, à la fois, les qualifications qui ont été un petit peu, en dents de scie. Alors, plutôt bonnes pour Charles Leclerc, moins bonnes pour Carlos Sainz qui est venu frotter, avec son aileron arrière, une des barrières de sécurité. Et qui, effectivement, n'a pas pu accomplir son dernier chrono en Q2 et donc est sorti à ce moment-là des qualifications. Pour le résultat de la course, ils se placent l'un et l'autre 7e et 8e, donc 7e Charles et 8e Carlos Sainz. C'est un peu en deçà des performances des derniers Grands Prix, laissant la part belle, à Ricciardo notamment, qui pour le coup, McLaren a bien performé, à l'instar, donc de l'Australien. Et des autres concurrents qui sont devant Pierre Gasly, on l'avait dit tout à l'heure, et Ocon pour Alpine. Ferrari garde donc sa troisième place au championnat constructeur devant Red Bull et Mercedes. Et voici pour ce petit point. Je vous laisse avec nos experts merguez du barbecue F1 et je vous dis, je le souhaite, à très bientôt et prochain Grand Prix qui se déroulera à Dubaï pour la dernière manche de ce championnat. À très vite. Ciao, ciao.
Ok, bon, ben, on a fait le tour de ce Grand Prix qui était vraiment enfin, assez incroyable. Hein. Ça a été vraiment haletant en termes de... Alors qu'on soit fan de Verstappen ou fan d'Hamilton, franchement, il s'en est passé de belles. On a pu... chacun a eu ses petits moments de satisfaction pendant le Grand Prix, bon, qui s'est fini plutôt... plutôt positivement pour les fans de Lewis et nettement moins bien pour les fans de Verstappen qui, effectivement, avant le dernier Grand Prix de la saison qui a lieu dès ce week-end, sont probablement un petit peu plus sur la défensive parce que, effectivement, Mercedes, au niveau de la monoplace, a repris l'ascendant. Je pense que le contre-choc de ce week-end multi-sanction pour Verstappen va pas être non plus évident, mais après, quand tout se joue sur un Grand Prix, quand tout se joue sur un virage, et eh ben, voilà, la marge d'erreur est faible hein, et on ne sait jamais trop ce qui peut se passer. Il peut y avoir un problème technique sur la Mercedes. Il peut y avoir, je ne sais pas, encore un changement de moteur, pourquoi pas sur Hamilton. Nous verrons bien. Mais en tout cas, pour l'heure, c'est le moment d'écouter les 5 informations inutiles de la semaine de Sébastien Vettel.
C'est box, 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 box.
Salut tout le monde, c'est Sébastien Vettel pour les 6 infos inutiles de la semaine. Après le circuit en forme d'arme à feu d'Abu Dhabi, voici le circuit en forme de spermatozoïde d'Arabie Saoudite. La FIA prône des valeurs d'égalité de sexe et de couleur, mais ce qu'ils ne disent pas, c'est que le plus important pour eux, c'est l'argent qui peut servir à anéantir les deux valeurs précédentes. Plus tu payes, et moins on parle de ce qui se passe dans ton pays pour ton peuple. Jos Verstappen pris en flagrant délit de taper sur une table pendant les qualifs. Les membres de sa famille trouvent qu'il s'attendrait un peu trop en vieillissant. Retrouvez les autorités de la FIA sur vos marchés tous les samedis matins. Attention, ils excellent niveau négociation. Pour un rendu de place acheté, une pénalité de 10 secondes offerte. Pour sa reconversion, Toto Wolff envisage de devenir crash tester des casques Bose. Pour le moment, leur qualité a l'air satisfaisante. Lewis et Max sont comme des gamins de maternelle. Maîtresse, il y a Lewis qui reste pas assez proche. Ouais, mais Max, lui, il double par l'extérieur. Ouin, ouin, ouin. C'était Sébastien Vettel pour les 6 infos inutiles. On se retrouve au prochain Grand Prix.
Voilà, voilà les infos et informations inutiles de Sébastien Vettel qui tape quand même assez lourd sur la FIA.
Ça dénonce
sur tacle au niveau de la carotide pour ce qui est de voilà de, du Qatar, ouais. De l'Arabie Saoudite. Vas-y Charles.
Joli acting, joli aussi.
Ouais, ouais, ouais. Voilà, voilà. Et ben maintenant est venu le temps peut-être de faire un petit point sur le prochain Grand Prix. À la fois les pronostics, puis en final
ah, les fameux pronos.
Et c'est vrai que quand on regarde la retransmission du côté de Canal, eux-mêmes les journalistes et différents présentateurs se perdent un peu en conjoncture sur les pronostics puisque c'est jamais évident de savoir Grand Prix après Grand Prix même si Red Bull va reprendre sa domination ou pas, si très difficile de savoir pronostiquer correctement et faut quand même s'imaginer que le pronostic de ce Grand Prix sera aussi le pronostic de qui sera le champion du monde de cette saison 2021. Saison trépidante. Alors, je vais peut-être laisser tout de suite la parole à Charles Carrefour parce que, quand même, il faut imaginer que Charles Carrefour avait annoncé pour ce Grand Prix de Jeddah en Arabie Saoudite une première place de Lewis Hamilton, une deuxième place de Max Verstappen et une troisième place de Valtteri Bottas. Charles Carrefour, ça fait quel effet quand même d'avoir eu le bon pronostic?
La cote à 1,01 qui passe. Ah, franchement, je suis refait. Pur bonheur, ouais. Franchement. Je ne sais pas combien de paris j'ai fait cette année, cette saison.
On fera un petit bilan lors de l'émission Kermesse de fin d'année.
Et celui-là, il fait plaisir. J'ai gagné mon centime, quoi.
Ok, écoute, tu vas le compléter peut-être avec ton pronostic sur cette fin de saison, ce dernier Grand Prix. À la limite on peut faire peut-être un double pronostic bon, qui est lié évidemment au premier mais à la fois le pronostic du Grand Prix et puis peut-être que tu vas me dire qu'on ne verra pas ni Lewis ni Verstappen sur le podium, on les verra peut-être un peu derrière et qui sera champion. Allez vas-y.
Voilà, franchement depuis le début je dis Lewis champion donc Lewis P1 suivi de Bottas et Verstappen en 3.
Ok, très bien. Très bien, très bien. Je vais laisser tout de suite la parole à Lance. Lance qui avait lui aussi fait le bon pronostic quand même. Ça, il avait effectivement annoncé du Hamilton, Verstappen, Bottas. Donc c'est beau ça. Se doubler, Radio Merguez. C'est incroyable ça.
Oui, c'est tout de suite avec Charles, quand il faut parier sur de la cote à 1-0-1, on est là. On est présent. Quand il faut enfoncer les portes ouvertes. On est là.
En même temps, comme vous avez chacun mis 100 000 balles, ça commence à faire un peu de caillasse. Même à 1-0-1, il y a de quoi faire de la soirée.
Voilà, et à Abu Dhabi, en plus, il y a de quoi s'amuser à Abu Dhabi en ce moment. Donc,
Ok, bon, mais donc Abu Dhabi, là, comment ça se passe, Lance?
Moi, je mets un Bottas premier. Là, je monte un peu la cote. Bottas premier, Lewis 2 et Verstappen 3.
Okay.
Donc Lewis champion et McLaren qui finit en beauté avec un doublé.
Ok, très bien. Gérard, toi tu n'étais pas là sur l'émission précédente, tu n'avais pas non plus transmis ton pronostic. Je pense que tu devais être en train de dormir. vas-y, dis-nous tout sur ce dernier Grand Prix d'Abu Dhabi. Qui remporte tes suffrages?
Moi, je vais encore plus lever la cote. Je vais dire ni Lewis ni Max, parce que je pense qu'ils vont être tellement dans leur mix qu'ils vont se sortir tous les deux. Enfin, okay. Max va faire ça de façon assez subtile pour faire croire à un vrai incident de course et non pas un acte délibéré.
D'accord.
Mais je vais dire Bottas 1, Gasly 2 et Leclerc 3. J'aime bien mettre Leclerc en troisième position. Ça marche jamais, mais...
Non, ça marche. On fera ça quand ça sera la distribution des merguez. Mais c'est vrai que saison peut-être un peu en dedans du côté de Charles, il me semble.
Meilleure place deuxième, sinon c'est que des quatrièmes.
Il savait, hein. Ferrari, il a un peu de l'année dernière. Hein.
Ouais, mais alors donc, qui est champion, Gerhardt?
C'est Max, du coup.
Ok, Max par abandon. Collectif, quoi. Ok, très bien.
Grands Prix gagnés.
Ouais. Oui, imagine, les deux abandonnent et Lewis a quand même réussi à faire le meilleur tour. Il prend un... Ah non, faut terminer le Grand Prix.
Faut être dans les 10 premières. Ah, merde. Ça compte.
Ouais, donc,
Ok, bon, ben moi, j'annonce un Lewis Hamilton, Valtteri Bottas et Sergio Pérez, troisième position. Voilà.
Attends, est-ce que tu peux redire?
Moi, c'est Hamilton, Bottas, Pérez, mon podium.
Ok.
Pas de Verstappen. Non, Verstappen, il...
Let's go.
Verstappen, il est dépassé. Non, il est dépassé dans ce Grand Prix. Il tente le tout pour le tout et puis il sort. Quoi. Il se sort. C'est ça qui s'est passé.
Il monte sur Mazepin en le dépassant pour lui prendre un tour.
Mm-hmm. Ok. Bon, écoutez, je pense que là, on est bon. Là, on a fait notre émission, notre bon barbecue après ce bon Grand Prix. Et puis on reste dans le désert sous la tente, tranquillement, hein, je pense, non? Qu'est-ce que vous en pensez, les gars?
Il faut aller donner un petit peu de boisson au chameau.
Ok, très bien.
On se prépare.
Ok, salut à tous.
Et puis à bientôt. À dimanche.
À la prochaine. Ciao, ciao.
Salut.
Salut.